RMC Motors, Arnaud Jean Lecroix.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. Et si vous nous regardez à la télé sur RMC Sport News, 13h08. Et comme tous les dimanches, Motors, c'est jusqu'à 14h émission. Allez, un petit peu spéciale, on va dire, aujourd'hui, puisque c'est la 850e 17 années d'existence. Bonjour Jean Lecroix.
Et bonjour Arnaud Souk, bonjour
et ça,
à tous.
Je sais que ça te touche particulièrement.
Ben oui, écoute, ça fait d'abord très très plaisir de pouvoir parler de sport mécanique depuis aussi longtemps sur l'antenne d'RMC. C'est la seule radio, on va dire, qui consacre effectivement une heure toutes les semaines au sport mécanique, donc c'est un plaisir, surtout quand le programme est aussi chargé que celui d'aujourd'hui. Ça tombe bien avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis.
850, il y a un F1, il y a un coureur qui a 850 Grand Prix.
Non, alors ça n'existe pas, ça c'est impossible. C'est quoi, non non, c'est 300 de mémoire, 323.
Bah voilà, tu fais 500 mieux. Genre, ouais. Bravo à toi. On s'est réservé le meilleur évidemment, et que le meilleur Jean-Luc, pour cette 850e, avec à la une le Grand Prix de Monaco, une première ligne 100% Mercedes, Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Pendant ce temps-là, Ferrari s'est encore raté dans les grandes largeurs lors de la séance de qualif hier. On en parle dans un instant dans le briefing. Départ du Grand Prix évidemment à 15h10, à vivre en direct sur RMC. 13h25 dans le French's Corner, on reviendra sur les qualifs des Français également. Cinquième temps pour Pierre Gasly hier lors de la séance de qualif sur sa Red Bull. Mais le Normand partira en 8e position à cause d'une pénalité. Il aurait ralenti notamment Romain Grosjean dans la descente de Mirabeau. Le pilote As Romain Grosjean, lui, qui partira 13e sur la grille de départ. On reviendra aussi sur les perfs des Renault. Ricciardo 6e, Hülkenberg 11e. Et puis 13h45 dans Radio Paddock, largement consacré aujourd'hui aux 500 miles d'Indianapolis. Et oui, c'est l'autre grande course du jour, peut-être l'une des plus prestigieuses du sport auto. Elle pourrait pourquoi pas être remportée pour la première fois depuis plus d'un siècle,
ah oui,
par un Français. C'est hallucinant. Je crois que le dernier, c'était 1914, c'est ça?
Alors,
si on accepte monsieur Chevrolet,
voilà,
franco-suisse.
Exactement. Il y a Jules Gou et il y a René Thomas en 1919. Il y a pile un siècle.
Voilà. Incroyable. Incroyable. Et donc, un Français partira en pôle aujourd'hui à Indianapolis ce soir. C'est Simon Pagenaud. Sébastien Bourdet s'élancera également de la 7e position. Vous fait gagner également ce week-end vos places pour le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Ça, c'est dans 29 jours. On en parlera également tout à l'heure dans Radio Paddock. Votre passe pour les 3 jours, c'est à gagner maintenant sur RMC. Pour remporter vos billets, vous envoyez sans plus attendre F1 au 732-16. F1 au 732-16. Merci d'être avec nous sur RMC, sur RMC Sport News. C'est parti pour Motors. Et on va accueillir nos envoyés spéciaux,
oui,
qui sont à Monaco. Mmh. Lucas Vinois et Adrien Tambay de la Dream Team. Messieurs, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut à tous.
Alors,
salut,
c'est quoi les conditions atmosphériques, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours important. Alors, on le fait pour la carte postale, mais c'est aussi important pour le Grand Prix. Lucas.
Bon, oui, il fait très très beau ici à Monaco. C'est vrai qu'on s'est levé ce matin avec Adrien et on s'est dit peut-être qu'on pouvait avoir une
course. On a même eu un peu de pluie.
Course, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on était un petit peu sous la pluie, mais bon, maintenant c'est le grand soleil sur la Principauté, donc on devrait avoir une course sur le sec, même si, vous le savez, on espère toujours la pluie, nous.
On attend toujours l'appui, effectivement. Bon, on en parle.
Tiens, on en parle. On en parle. Et dommage pour Charles.
Hein. RMC Motors. Le tour de chauffe.
Ah oui, c'est le chapitre 6, de la saison 2019 du championnat du monde de Formule 1. J'ai envie de dire celui des strass et des paillettes, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi ça. Monaco, 78 tours de bonheur, 260 km, 282, si j'ai bien compté, à travers la principauté. C'est peut-être finalement le Grand Prix, le plus attendu de la saison, à coup sûr celui qui a la plus grande notoriété auprès du grand public, ce Grand Prix de Monaco. Départ donc 15h10 en direct sur RMC. On va tout vous dire dans cette émission. Jean-Luc, pourquoi c'est le plus prestigieux aux yeux du grand public, ce Grand Prix de Monaco?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est le cadre, qui est absolument unique, évidemment, le cadre de la Principauté de Monaco. C'était le premier circuit en ville, en tout cas à ce niveau-là. On en est à la 77e édition. C'est vrai qu'il y a des pièges particuliers, enfin, à négocier, même si une bonne partie du revêtement a été refait, si on a fait progresser, heureusement, la sécurité dans les endroits où c'était possible. Mais c'est un circuit mythique, un circuit que les pilotes adorent, parce que c'est un circuit naturel, où on passe, c'est même plus à quelques centimètres, on le voit parfois au ralenti sur certaines images, on passe à quelques millimètres des rails, donc c'est un exercice extrêmement particulier. Alors on aurait pu souhaiter la pluie, effectivement, parce que ça vient brouiller les pistes, ça en vit d'un jeu de mots, et puis ça aurait pu permettre à un certain, on va y venir, Charles Leclerc, de tenter une remontée. Bon, on fera on avec le temps qu'il fera. Voilà.
Non mais je dis ça parce que c'est quand même l'un des rares Grands Prix aussi où on connaît les noms des virages, on connaît le nom des lieux, la piscine, Sainte-Dévote, la Rascasse, Mirabeau, enfin c'est, on connaît pas ça sur les autres circuits. Il y a aussi ça, c'est c'est aussi ça Monaco.
C'est vrai, et puis il y a comme toujours les stars, les paillettes, puisque le Grand Prix se tient en même temps que le Festival de Cannes, donc on voit plusieurs stars effectivement,
qui s'est achevé hier, effectivement.
Voilà, du cinéma venir sur la grille de départ, se montrer, discuter un petit peu avec les pilotes, et c'est vrai que c'est le grand rendez-vous, et puis on peut passer un Grand Prix de Monaco en observant justement les monoplaces depuis une terrasse, un verre de champagne à la main par exemple, en discutant, donc c'est vrai que c'est un Grand Prix avec une ambiance glamour, comme on dit généralement.
Alors Lucas, je me tourne vers toi, Mercedes a donc écrasé encore une fois la séance de qualifier. Hein.
Oui, ah bah alors là c'est écrasé, je crois que c'est le mot. Malheureusement, on s'y attendait un petit peu. Alors c'est pas qu'on aime pas Mercedes, mais c'est vrai que la domination des flèches d'argent cette année est écrasante. 1,10166 pour Lewis Hamilton, un petit peu plus de 177 km/h de moyenne dans les rues de la Principauté, c'est colossal. Et même Max Verstappen, même le Hollandais volant ô combien talentueux avec son Aston Martin Red Bull et un châssis qui est toujours bien équilibré et qui lui permet d'aller vite entre les rails de Monaco n'a pas pu venir contrecarrer les plans de Mercedes, tant les Mercedes dominent depuis le début de saison.
Et donc Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, c'est quoi? C'est le talent? C'est le savoir-faire? C'est quoi qui fait la différence, Jean-Luc?
C'est tout ça, plus le fait de ne pas commettre d'erreur, et on va venir évidemment à Ferrari, parce que Mercedes est toujours là, parfois avec une monoplace qui n'est pas forcément la meilleure sur la piste, on l'a vu, mais on sait profiter des erreurs des autres, et puis je crois qu'il faut le répéter, encore une fois, Lewis Hamilton, avec une 85e pole position dans sa carrière de pilote de Formule 1, avec ses 76 victoires en Grand Prix et puis surtout ses 5 titres de champion du monde, Lewis Hamilton est déjà une légende de la Formule 1. Alors c'est vrai que à Monaco, il s'était pas jusque-là extraordinairement exprimé. Deux pôles, la dernière remontant à 2015. Ça l'en fait une troisième. C'est déjà très impressionnant. On n'a pas encore accroché les 5 pôles d'Ayrton Senna, mais pourquoi pas dans le futur.
Et c'est assez marrant parce que en l'interrogeant hier après la course, Lucas, tu t'es rendu compte que il s'y attendait pas vraiment. On va l'écouter justement, Lewis Hamilton à cette pole position.
Ça a été une semaine compliquée. Pendant les qualifications, je souffrais. J'avais du mal. J'ai fait mon premier tour en Q3 et j'étais 2 dixièmes derrière. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Je me posais des questions et il ne faut jamais s'en poser mais plutôt croire en soi. Et quand je suis sorti pour mon dernier tour, je me suis enlevé tout ça de la tête. Avec notre semaine compliquée, faire la pole position, ça signifie beaucoup pour moi.
Voilà, et oui, Hamilton au micro RMC de Lucas Vinois. Peut-être un mot d'Adrien Tombé, notre consultant direct de Monaco aux côtés de Lucas sur cette domination des Mercedes avant d'en venir au Ferrari.
Mais je crois, comme le disait Jean-Luc Arnaud, c'est le souci du détail. On sait que la Formule 1 est un sport où tous les détails font la différence, et chez Mercedes, on est dans le vert dans toutes les cases, on les coche toutes, que ça soit au niveau des pilotes, de Lewis Hamilton, de Valtteri Bottas même. Les deux sont irréprochables pour l'instant. On les a même vus en bataille sur la piste, sans même avoir d'ordre, en ayant la bataille libre, quelque sorte, se respecter l'un l'autre. Et puis du côté des stands, au niveau de la stratégie, mais aussi de la science de la course, des décisions, tout est pris de façon très juste, et en plus avec de la poigne, et il n'y a pas d'hésitation quoi. Chez Toto Wolff, c'est quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs. Et puis même s'il y a eu au début des années Toto Wolff quelques couacs à des moments, on a l'impression que là il a vraiment atteint sa vitesse de croisière et qu'il domine son sujet.
Juste un tout petit mot, parce qu'on l'a vu escalader les grillages, et ça c'était vachement sympa après cette pole. C'était spontané, il l'a dit lui-même, il a vu des supporters britanniques dans le public à la manière d'un Helio Castroneves. Ça nous fait la transition avec l'IndyCar pour tout à l'heure, qui après chacune de ses victoires escaladait les grillages pour aller saluer le public. C'est ce qu'a fait Lewis Hamilton, et je crois que là aussi il faut lui reconnaître cette fraîcheur au quintuple champion du monde. C'est un vrai plaisir de le voir aussi heureux.
Pas d'hésitation, disait Adrien du côté de Mercedes, ça tranche avec la valse hésitation justement de chez Ferrari, qui a coûté encore très cher, on le dit de semaine en semaine. C'est déjà le 6e Grand Prix de la saison, et j'ai l'impression qu'on a dit à chaque Grand Prix que Ferrari avait commis des erreurs. Ouais. Encore une manifestement hier en séance de qualif. Sébastien Vettel s'élancera de la 4e position, donc de la 2e ligne. Charles Leclerc lui sera beaucoup plus loin, le monégasque, puisqu'il s'élancera de la 15e position, et encore il a profité d'une pénalité d'un adversaire.
Écoute, je pense que Lucas et Adrien vont abonder probablement dans mon sens, mais moi j'ai bondi hier quand j'ai vu ce qui se passait. c'est-à-dire on voyait très clairement qu'on a sauvé Vettel d'extrême limite, d'ailleurs qui a failli ne pas passer non plus la barre de la Q1, parce que là aussi, bon, il s'était un petit peu loupé, etc. On l'a sauvé, c'est formidable, mais j'ai l'impression, même si Mattia Binotto a dit le contraire, qu'on a totalement négligé Charles Leclerc, qui pourtant lui-même est resté dans sa monoplace, a posé la question à son ingénieur, qui est Jock Clear, qui est quand même pas le dernier ou le dernier venu, hein, puisque c'était c'était l'ingénieur à l'époque de Jacques Villeneuve, donc c'est quelqu'un qui a un passé formidable. Je ne comprends pas qu'une écurie du calibre de Ferrari puisse commettre des erreurs aussi énormes. Et là, on rend grâce à Charles Leclerc, parce que je crois que ses propos à 21 ans ont été extrêmement mesurés. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'être aussi mesuré juste après des qualifs ratés.
On va l'écouter justement, Charles Leclerc, le pilote monégasque, dans sa mesure, mais quand même avec un petit peu d'amertume.
J'ai pas de mots. Difficile d'accepter. On avait largement la perfo pour aller en Q3 au moins. Jeter une qualif comme ça, c'est vraiment dommage. J'ai pas encore eu d'explication, mais bon, c'est pas facile à accepter là pour l'instant. On verra. Demain, je pense que ça va être une course plus que compliquée. Voilà, là, c'est sûr que le week-end est pas mal gâché. Après, voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec Ferrari, mais dans ce moment-là, c'est difficile.
Voilà, Charles Leclerc au micro de nos confrères de Canal+. Adrien, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Ferrari à ce moment-là? Alors, je crois qu'on a prétendu à une thèse, conserver un train de pneus supplémentaire pour la course, c'est ça?
En fait, est-ce que c'est crédible? En fait, prendre des risques là où il n'y a pas forcément à prendre des risques, tout simplement, parce qu'on est déjà en deçà en termes de performance par rapport à Mercedes, et qu'on sait que c'est le circuit quand même où il faut ne pas rater sa qualification, être devant, être sûr de passer cette Q1, cette Q2 pour se retrouver en Q3 et aller pouvoir se battre pour la pole. Le problème, il est tout simplement qu'il y a un moment donné où je pense que les gens de chez Ferrari n'ont pas eu le recul nécessaire par rapport à cette science de la course, à la course elle-même, et étaient trop plongés dans leurs chiffres et avaient tout simplement fait des calculs plus ou moins savants sur le temps butoir qu'il fallait faire pour pouvoir passer en Q2. Ça, c'est calculé, c'est des algorithmes, c'est des choses qui sont calculées sur les circuits classiques, entre guillemets, mais qui peuvent moins l'être, ou en tout cas avec plus de marge à Monaco, parce qu'on est sur un circuit en fait où les pilotes s'améliorent tour par tour, on prend de la confiance, l'adhérence du circuit elle aussi s'améliore tour par tour, donc en fait un deuxième run de tout le monde en Q1, on gagne plus de temps que sur un circuit classique, et donc la marge elle aurait dû être différente, et ça, bah normalement c'est des gens quand même qui ont une certaine expérience du sport automobile. Nous, sur notre canapé ou devant notre télé ou en train de commenter, on était concentré sur Vettel à ce moment-là, mais on l'a vu venir parce que c'était clair comme de l'eau de roche, il fallait ressortir pour ne pas prendre de risques.
Comment on explique ça, Lucas, justement, est-ce que tu as pu toi rencontrer des membres de la Scuderia?
On l'explique très simplement, c'est que Mattia Binotto a avoué qu'on s'était planté. Voilà, c'est tout. Je pense que on ne peut pas être plus clair. Et même pour Sébastien Vettel, c'était très dangereux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à Monaco. Il peut y avoir un drapeau jaune, une sortie de piste, un drapeau jaune, vous ralentissez, votre tour il est raté de toute façon puisque vous ne pouvez pas améliorer. Donc dans tous les cas, même si Sébastien Vettel est passé, ça aurait pu être la catastrophe, et c'était déjà une mauvaise décision que de faire s'élancer le pilote allemand aussi tard dans la qualification. C'est passé pour l'allemand. C'est pas passé pour Charles Leclerc. Le problème, c'est que les erreurs sont répétées et qu'on n'a pas forcément l'impression que Ferrari apprend justement de ces erreurs. C'était le cas à Bakou, c'était le cas ensuite en Espagne, c'est de nouveau le cas ici. C'est quand même fâcheux pour une écurie qui a pour objectif de devenir championne du monde.
C'est quoi? C'est un manque, de tête pensante.
Non, Jean-Luc, c'est pas
trop de tête pensante à un moment donné.
Trop de tête pensante. Je crois qu'il faut donner des responsabilités aux gens, et je pense que là, on a enlevé Mauricio Arrivabene, et je vais pas demander son retour, mais il a commis des erreurs, mais beaucoup moins par rapport à ce qui a été réalisé là sur 5 grands prix. C'est totalement ahurissant. On peut quasiment dire d'ailleurs qu'à chaque fois Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis, jamais ils n'ont pris la bonne décision. Alors on peut se tromper de temps en temps, mais quand c'est tout le temps, c'est qu'il y a un vrai problème. Est-ce que les responsables entre guillemets ne le sont pas? Est-ce que, moi je l'ai déjà cité, mais je vais le reciter à l'antenne, est-ce que Laurent Mekies, qui est arrivé, qui est un type vraiment très performant, qui est un Français, hein, qui est venu de la FIA, qui était avant chez Toro Rosso, etc., et qui a été chez Renault, qui est extrêmement brillant, intelligent. Je ne peux pas imaginer une demi-seconde que quelqu'un comme Laurent Mekies n'ait pas vu venir le coup. Donc il ne doit pas avoir la responsabilité. Alors qui l'a dans ces cas-là? Apparemment, Jock Clear, qui a été voir Charles Leclerc juste après, on a vu l'image, avait l'air désolé, mais en disant, bah c'est pas moi. Donc il y a un problème chez Ferrari. Donc là, il faut le résoudre très vite. Sinon, ça va être une succession de ratages. Et donc, on peut dire que déjà, la saison, elle est pliée. Mmh. Alors qu'on en est au 5e Grand Prix. Enfin, c'est incroyable.
Un pilote dont tout ça a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Max Verstappen, qui a terminé 3e, lui, sur sa Red Bull. Justement, hier, de cette séance de qualif. On va l'écouter et on en parle juste après. Le Néerlandais.
Je m'attendais à être 3e et je le suis sur la grille. Nous savons que nous avons un retard au niveau du rythme par rapport à Mercedes. Nous sommes réalistes. Je ne rêvais pas ce week-end d'une lutte pour la pole position. Mais bon, je me sentais bien. Nous n'étions juste pas assez rapides pour se battre pour la pole position.
À sa place, on a l'impression. Oui. C'est un petit peu ce qu'il dit, c'est un petit peu le sens de ces mots.
Pas résigné. Ouais, pardon. Pas résigné. Juste en un mot. Parce que c'est pas le genre de Max, hein. Il va tout faire. Mais je pense que si les deux Mercedes devant, quel que soit l'ordre, je le précise, et on le verra après le premier virage à Sainte-Dévote, sont encore en piste à l'issue du premier tour, eh ben, Max, il va jouer pour une place sur le podium. Oui.
Parce que c'est aussi ça, peut-être l'enjeu aussi aujourd'hui. Mercedes qui, monopolise, qui squatte la première ligne de départ à Monaco. Ça veut, semble-t-il, dire qu'une des deux Mercedes, à minima, sera justement au bout, si ça se passe bien, en tout cas après le premier virage.
Oh ben c'est clair. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien, mais c'est évident que là, bon, il y a un arrêt de prévu, hein. Il y a une stratégie à deux, mais elle est moins performante. Donc, si ça se joue sur le sec, et c'est ce que vous nous dites, bah a priori un arrêt, et puis après l'affaire sera jouée.
Ouais, ça va être dans tous les cas très compliqué parce que c'est un circuit où on le sait, on ne cesse de le répéter en tout cas, on peut très difficilement aller dépasser. Par contre, ouais, on n'est pas à l'abri de se décaler au niveau stratégie, essayer de faire deux arrêts pour Max Verstappen. Après, elle est assez performante quand même cette Red Bull. Il est à 5 dixièmes, que 5 dixièmes entre guillemets, même si c'est un monde en Formule 1, des deux Mercedes. Il a une suspension avant qui a été complètement repensé, qui est assez avant-gardiste d'ailleurs, qui permet dans les virages très lents d'avoir la plus grande surface possible du pneu qui est en contact avec le bitume, et c'est ce qui lui donne cette agilité là, ce train avant là, et du coup ça lui fait gagner du temps dans les portions les plus lentes du circuit. Il sait très bien l'utiliser, donc peut-être que sur la durée, sur l'usure des pneus, il pourra aller mettre la pression sur les deux Mercedes, mais ça va être compliqué d'aller les chatouiller quand même.
Et on verra ça évidemment dès 15h10 tout à l'heure, le départ de ce Grand Prix de Monaco. On continue à en parler, hein, dans un instant dans Motors. On va se concentrer sur les performances des Français. Je vous rappelle que Pierre Gasly s'élancera de la 4e ligne en 8e position, lui qui avait réalisé le 5e temps mais qui a donc été pénalisé de 3 places pour avoir ralenti de manière significative la performance de l'autre Français, justement, du paddock, Romain Grosjean, qui lui s'élancera en 13e position. On aura un œil également sur ce qu'a fait Renault, 6e place pour Daniel Ricciardo, 11e pour Hülkenberg. On en parle dans un instant dans le Frenchies Corner. Je vous rappelle également que vous gagnez ce week-end vos places pour le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, votre passe pour les 3 jours. C'est à gagner maintenant sur RMC. Pour remporter vos billets, vous envoyez sans plus attendre F1 au 7-32-16. F1 au 7-32-16. 13h26, à tout de suite dans Motors sur RMC.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC Sport News à la télé. Il est 13h28, c'est Motors évidemment, jusqu'à 14h comme tous les dimanches. On se régale, on parle du Grand Prix de Monaco évidemment, 6e manche du championnat du monde de Formule 1 version 2019. Départ à 15h10 tout à l'heure sur RMC. Vous le vivrez en intégralité avec toute l'équipe de Jean-Luc Roy, Christophe Cessieux, avec également Adrien Tambay et Lucas Dinois, nos envoyés spéciaux en principauté. Aujourd'hui, on a parlé des cadors, on va parler des Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Pas que nos Français ne soient pas des cadors, mais non, ils sont placés un peu plus loin, forcés de le constater. Voilà. À commencer par Pierre Gasly, qui s'élancera de la huitième position. Non, mais c'est important de rappeler.
Oui, oui,
de
le dire. Tu
on a quand même des très bons pilotes, mais malheureusement, bon, mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour eux que pour les Mercedes. Pierre Gasly, huitième, et c'est un petit peu regrettable, ouais, on a envie de dire, pour le pilote Red Bull.
Bah, écoute, c'est dommage parce que, en termes de performance, là, on peut dire qu'il est revenu, à ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire 2, 3, 4 dixièmes maximum. Là, il est pile en performance à 4 dixièmes du temps de Verstappen. Adrien expliquait il y a un moment que Verstappen bénéficie, et c'est normal, c'est le premier pilote de l'équipe, de toutes les nouveautés, notamment au niveau du train avant, et puis on sait que c'est un pilote extrêmement performant, déjà vainqueur de Grand Prix, et peut-être un futur champion du monde en puissance. Donc c'est une très belle référence pour Pierre, qui a débarqué en début de saison dans cette équipe Red Bull. Là, la performance était là, donc puisqu'il avait réalisé sur le terrain le cinquième temps, malheureusement, il est pédalisé. Alors il est à moitié responsable parce que il
est en train de quasiment pas,
parce qu'il peut pas savoir, surtout à Monaco, qui est derrière lui. Mmh. Alors il traînait un petit peu, effectivement, on l'a vu dans le virage, effectivement, du casino. Mmh. Mais quand Romain Grosjean est arrivé derrière dans Massenet, puisque c'est entre les deux Français que ça s'est joué, Gasly s'est serré à gauche dans la descente sur Mirabeau, et j'avoue que là je n'ai pas trop compris pourquoi Grosjean est arrivé juste derrière lui alors qu'il pouvait prendre à droite tout de suite. Et je répète, Gasly était aux ordres de son ingénieur qui était en train de lui demander de bidouiller, il n'y a pas d'autre mot, des choses sur son volant. Ouais. Donc c'est très dommage, cette incompréhension qui a pénalisé effectivement un tour de Romain. Mais peut-être c'était évitable avec un peu plus d'attention de la part des ingénieurs, au moins qu'ils servent à quelque chose et qu'ils signalent au pilote qui arrive derrière et comment. Et puis là, peut-être Romain n'a pas assez anticipé, de mon point de vue, le fait que la voiture allait traîner au milieu.
Alors Romain...
Oui,
Romain,
je t'en prie, vas-y, Adrien.
Excuse-moi Arnaud, mais... Et Jean-Luc, oui, effectivement, on a vu la même image,
oui.
Mais Romain ne pouvait pas anticiper à cet endroit-là parce qu'on sort très vite du virage du casino et c'est complètement en aveugle. Et le problème, c'était le différentiel de vitesse que la Red Bull avait par rapport à Romain. Ça saute littéralement à la gueule avec ces Formule 1 qui vont de plus en plus vite dans ces rues. Et comme tu le disais, Jean-Luc, effectivement, l'erreur, elle vient des ingénieurs de ne pas avoir prévenu Pierre de l'arrivée très très rapide de Romain Grosjean et de lui dire en même temps de faire des choses sur son volant et des réglages, voilà.
Alors écoutez à quel point Pierre Gasly était à la fois satisfait et quand même un petit peu déçu de sa séance de qualif. On l'écoute, le pilote.
Mais c'est content de la cinquième place. Après on finit à un dixième de Vettel devant, donc ça aurait été bien de pouvoir aller le chercher, mais j'ai pas réussi à mettre vraiment tous les secteurs ensemble. Et puis après il y a eu l'histoire avec Romain où je l'ai bloqué en sortant du virage 3 et 4. On était tous dans la même séquence et à la radio on me dit rien du tout, on me demande de changer des trucs sur le volant et je le vois pas arriver et du coup je l'ai bloqué. Vraiment désolé pour lui parce que c'était pas intentionnel et je pense que ça lui a un peu gâché la qualif.
Voilà, ça avait un petit peu gâché la qualif. Effectivement, on va peut-être écouter ce qu'on pense aussi Romain Grosjean de cette histoire, parce que Lucas Vinoy l'a également interrogé après cette qualification. Lui s'avancera en 13e position.
Ça a été difficile aujourd'hui, les sensations sont pas bonnes dans la voiture depuis ce matin. J'ai essayé de pousser, je pense qu'on aurait pu passer en Q3, mais clairement Red Bull avait décidé de pas allumer sa radio, donc j'ai failli empaler Pierre. C'est pas sa faute, hein. Et c'est lui qui va être pénalisé, je pense, mais c'est pas sa faute, c'est juste l'équipe qui a rien fait. Donc il y a un moment, ça fait... nous on se pousse toujours pour laisser passer tout le monde. Les autres ont pas l'air de vouloir jouer le jeu, donc là c'est sûr que c'est la colère qui prime. Cette saison c'est couille sur couille, donc là ça devient dur.
Voilà, ça finit bien cette petite interview de Romain Grosjean.
Et on a la transition, de toute façon à Monaco ça sert ces ustensiles là pour aller vite entre les rails.
Effectivement. Lucas, toi qui as assisté à tout ça hier, justement, ça devait être un petit peu surréaliste ce qui s'est passé finalement de voir quasiment effectivement Pierre Gasly à l'arrêt et cette voiture de Romain Grosjean lui arriver dans le dos.
Ouais, c'était surtout très dangereux. Franchement, l'image en caméra embarquée, Romain Grosjean qui arrive dans le diffuseur de la Red Bull, ça aurait pu être catastrophique. Ça m'a fait un petit peu penser, je sais pas si vous êtes d'accord messieurs, à ce moment, c'était à Bakou, c'était l'année dernière, Pierre Gasly avait failli empaler Brendan Hartley dans le troisième secteur. Pareil, un petit peu en aveugle, les deux pilotes ne s'étaient pas compris. Ça aurait pu être catastrophique. Après, le problème, c'est que c'est fâcheux pour Romain Grosjean. Alors pour Pierre Gasly, bien évidemment, parce qu'il paye pour son équipe. Lui, il n'y est pour rien, comme le disait le pilote Haas, mais surtout Romain Grosjean va partir 13e quand son coéquipier Kevin Magnussen lui s'élancera 5e. Il y avait la possibilité de faire quelque chose de bien ici à Monaco, de marquer des gros points, et forcément en partant 13e pour Romain Grosjean, ça complique grandement la tâche.
Alors venons-en d'abord à Pierre Gasly, si vous le voulez bien, puisqu'il s'élancera en 8e position du coup. Quels peuvent être ses espoirs aujourd'hui, justement, Jean-Luc, Adrien?
Écoute, si je commence, effectivement, il y a Magnussen, on vient de le dire, qui est très performant dans les rues de Monaco, qui va être un os, hein, normalement il aurait dû partir devant. Il y a Daniel Ricciardo, qui était le poleman de l'an dernier, qui est également très performant. Et puis on n'oublie pas Daniil Kvyat, le russe, qui lui est extrêmement difficile à dépasser. Donc je pense que la tâche et la mission de Pierre Gasly va être difficile. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais...
C'est compliqué pour Pierre Gasly de remonter dans cette course parce que comme on le disait on se répète mais comme on le disait c'est un circuit où aller doubler c'est une prise de risque et puis Pierre n'est pas forcément dans la pleine confiance qu'il pourrait avoir. On sait qu'il a pas forcément le soutien qu'il mérite chez Red Bull ou en tout cas on le devine et puis on a des informations mais voilà, c'est même compliqué d'en parler parce que on veut pas le mettre en difficulté et trop en parler mais
il a pas tout à fait la même voiture que Verstappen hein,
clairement voilà, si on décode ça comme ça mais ça va plus loin que la voiture, ça va sur par exemple un siège avec lequel il est pas au mieux, il est pas bien installé dans sa voiture, il bouge, il a des problèmes de pédalier, on veut pas lui modifier certaines choses parce que ce n'est pas la priorité, et puis il perd du temps et puis il se sent dévalorisé dans cette équipe et la confiance est perdue. Donc il se bat, hier il a fait une très bonne qualif parce qu'il est pas loin de Max Verstappen. C'est un circuit où 4 dixièmes c'est pas énorme non plus, même si c'est un petit écart, malheureusement cette erreur en qualification de son équipe de ne pas lui dire que Romain Grosjean arrive derrière, ça lui coûte beaucoup plus que sur un autre circuit.
Comment tu peux accepter ça dans une écurie finalement, Jean-Luc, parce que c'est incroyable ce que nous raconte Adrien, un siège qui bouge, pédalier qui est pas fonctionnel, on veut pas lui changer, tu dis qu'il a même une moins bonne voiture que Max Verstappen. Alors ça à la limite, ça peut s'entendre qu'un leader ait une bonne voiture, mais le reste des questions de confort de pilote, c'est quand même incroyable parce que le but c'est quand même que même si le pilote il a une voiture un peu moins performante, qu'il fasse les meilleures performances.
Écoute, je me rappelle avoir insisté dès Melbourne, dès la première qualification sur l'erreur de Red Bull qui a été reconnue également par Christian Horner, de ne pas avoir lâché justement à nouveau Pierre Gasly pour faire un deuxième temps en qualif. Ceux qui nous écoutaient à l'époque vont s'en souvenir. Et j'avais dit, tiens, ça commence. C'est-à-dire qu'on met bien en avant Verstappen et ça avait fait partir Pierre 17 ou 18e de mémoire. Ça veut dire que sa course était pourrie avant même le départ du Grand Prix. Comme ça, on avait mis la hiérarchie en place. Je suis désolé de constater que ça continue. Maintenant, quand tu es un jeune pilote, que tu étais chez Toro Rosso et qu'on te propose, puisque Ricciardo est parti, de monter dans une des équipes de pointe qui te permet de gagner, tu fais avec, comme on dit. C'est arrivé à d'autres dans le passé. Le doron. Exactement. Et puis, tu
fais le doron, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de perdre confiance, comme tu le disais, et puis aussi de s'enliser quelque part et voilà.
Non, il est en train de la mettre sa confiance et de démontrer que le talent il l'a et il doit faire ce qu'il fait là.
Moi j'ai le souvenir quand Vettel est arrivé en Formule 1, on n'y a pas mis des bâtons dans les roues, hein. Non. Et pourtant il était très jeune, hein.
En Formule 1,
ce qui est pas comparable, mais bon.
Ouais. C'est comme ailleurs, comme en football, tu le sais bien, comme ailleurs. Il y a des modes. Il y a des gens comme ça qui cristallisent un petit peu l'attention. Et là, du côté de Red Bull, on a misé sur Verstappen, dont effectivement on veut faire un champion du monde au sein de son écurie pour ne pas qu'il parte justement chez Ferrari ou chez Mercedes un jour. Donc on le privilégie et je pense que c'est par contrat. On ne connaît pas évidemment tous les détails, on ne les connaîtra jamais, mais c'est évident qu'un pilote n'a pas le droit par exemple de critiquer son écurie. Est-ce que Adrien parvient à savoir, est-ce qu'on parvient à deviner? Nous on peut le dire parce qu'on est libre de nos propos, merci RMC, mais les pilotes n'ont pas le droit parce qu'il y a des clauses dans leur contrat qui leur interdisent de critiquer leur écurie et la Formule 1. Donc ça va jusque là.
Adrien, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là?
Non, mais dans la liberté de dire les choses, même les choses que je sais ou que Pierre peut me dire à des moments, même ça, je fais attention
à les dire à l'antenne
parce que je veux pas le mettre en défaut. Et en fait, c'est tellement politique ce milieu de la Formule 1 et Red Bull encore plus. Je suis tellement passé par là aussi que on fait attention quand même à ce qu'on dit. On est juste là pour rappeler que Pierre est un très bon pilote et qu'à voiture égale avec Max Verstappen, il serait aussi vite que Max Verstappen. Voilà, c'est tout.
Allez, c'est dit, un petit mot quand même de Grosjean qui s'élancera lui en 13e position, continue sa saison un petit peu mi-figue, mi-raisin, plus galère d'ailleurs que pas galère.
On vise les points, comme il l'a fait donc à Barcelone et d'extrême justesse, hein, parce qu'il avait Alexander Albon, le jeune Thaïlandais, juste derrière. Il a dû effectivement déployer beaucoup de trésors de pilotage pour rester devant lui. Monaco, il va falloir qu'il gagne 3 places pour rentrer dans les points. C'est ce qu'on peut lui souhaiter à Romain, je crois qu'effectivement, à moins, on a vu en Formule 2 encore effectivement des collisions en chaîne, à moins, et on ne le souhaite évidemment pas, à moins qu'il y ait une grosse élimination devant, même pour remonter 3 places à Monaco, c'est très compliqué à la régulière. Maintenant, la voiture est performante, puisque Kevin Magnussen l'a démontré, qu'il partira 5e, donc il peut profiter de ça, mais il va falloir s'imposer, c'est clair, dans des dépassements au rasoir, on va dire.
On en parlait au départ, juste un mot de conclusion là-dessus, Lucas, les conditions atmosphériques aujourd'hui, est-ce que la pluie risque de s'abattre ou pas sur la Principauté cet après-midi, et particulièrement sur ce circuit?
Evelyne Delia.
Il y a très peu de chance, il a les cheveux en plus, oh là là, tout de suite.
Bon, tu verrais bien, Lucas.
Nom, c'est ça aussi, c'est ça.
Ou ta grenouille, allez, on va prendre ta grenouille, va Lucas.
Non, mais il ne devrait pas pleuvoir ici en Principauté. Alors après, on se méfie, puisqu'on a eu quand même quelques surprises, notamment l'année dernière, mais pour l'instant, il fait une vingtaine de degrés et un temps absolument radieux sur Monaco.
C'est quoi ton surnom, Lucas?
Non mais je te laisse, c'est toi qui m'appelles comme ça là, donc arrête.
C'est le producteur de notre émission, Flavien.
Bip, tu sais, dans ces cas.
Allez, merci messieurs, et à tout à l'heure, 15h10.
Salut,
pour le départ de ce Grand Prix. Lucas Vinoy et Adrien Tombé, donc on retrouvera sur la ligne de départ tout à l'heure à Monaco. Nous on reste ensemble, évidemment, jusqu'à 14h. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez gagner vos places pour le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, votre passe pour les 3 jours, c'est à gagner maintenant sur RMC. Pour remporter vos billets, vous envoyez sans plus attendre F1 au 7-32-16, F1 au 7-32-16, ben ça tombe bien, tiens, le Grand Prix de France, on en parle dans un instant, parce que c'est dans désormais 29 jours, J-29, on sera justement avec le patron du Grand Prix de France dans un instant, et il se déroulera voilà, au Castellet, il sera en direct sur RMC, et puis on va également se projeter vers l'autre énorme événement du sport auto aujourd'hui, c'est les 500 miles d'Indianapolis, ce soir aux États-Unis avec un Français, oui, un Français en pole position, c'est Simon Pagenaud. Sébastien Bourdais, lui, partira en 7e position. On va vous raconter pourquoi tout ça, c'est un événement. À tout de suite sur RMC.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Jusqu'à 14h comme tous les dimanches, évidemment, Motors sur RMC et à la télé si vous nous regardez sur RMC Sport News. Il est 13h44, je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez, on va parler dans un instant des 500 miles d'Indianapolis. Je vous rappelle également qu'à 15h10, le Grand Prix de Monaco, eh bien, s'élancera pour la 77e fois de l'histoire. C'est bien ça, Jean-Luc?
C'est bien ça.
78 tours.
Parfait.
C'est bien ça.
Tu l'as dans le bon ordre.
Allez, c'est parfait. Tout de suite, Radio Paddock.
RMC Motors. Radio Paddock.
Christophe Plénier est avec nous. Salut Christophe.
Bonjour Arnaud. Bonjour.
Salut Luc.
Bonjour à tous.
On va quand même parler de Formule 1 encore dans Radio Paddock. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Enfin, surtout, il y en aura dans 29 jours. Et ce sera en France avec le Grand Prix de France.
Exactement Arnaud. Le compte à rebours a démarré. Hein. Nous sommes à 4 semaines du Grand Prix de France. L'an dernier, le public avait répondu présent sur le circuit Paul Ricard au Castellet pour le grand retour de la Formule 1 en France après 10 ans d'absence. J'imagine que tu es très excité.
Mais oui, mais bien sûr. Écoute, c'est un vrai bonheur. C'était un vrai bonheur qui va être renouvelé de retrouver enfin la Formule 1 sur le territoire français. C'est vrai que ces 10 années ont été longues. On a même craint un moment ne jamais revoir la Formule 1 en France. Les derniers Grands Prix, c'était à Magny-Cours. Là, on est venu sur le circuit Paul Ricard, sur lequel on a connu de très très grandes heures également de Formule 1 dans les années 70 et 80. Donc c'est un véritable bonheur. Et c'est un bonheur d'accueillir notre invité du jour. Arnaud.
Effectivement, on en parle avec Gilles Dufaigneux, directeur général du Grand Prix de France, qui est avec nous en direct sur RMC. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. J'imagine, et je passerai la parole à Jean-Luc après, quand même une certaine émotion, une certaine émulation, excitation. C'est quand même incroyable incroyable en tout cas pour nous, après 10 ans d'absence, d'avoir un Grand Prix de France encore qui va se dérouler comme l'an passé, justement, sur votre circuit.
On est très excités, effectivement. Vous le disiez, l'année dernière, c'était le retour après 10 ans. On avait attendu très longtemps pour avoir les Formule 1 de retour en France. 160 000 spectateurs sur 3 jours, une jauge pleine le dimanche, et puis 80 millions d'euros de retombées économiques pour la région. C'était vraiment une très belle fête.
Oui, Jean-Luc. Je crois que c'est très important, effectivement, Gilles, de souligner ces retombées économiques pour la région. C'est vrai que en France, et c'est le mal français, peut-être, moi, je peux me permettre de le dire, c'est toujours d'avoir des scrupules, surtout par rapport à des sports mécaniques. Eh bien, la région, avec tout le travail que vous avez effectué avec toute l'équipe et avec Christian Estrosi, il faut le rappeler, qui a été le moteur, sans vilain jeu de mots.
Oui.
Voilà, lui, ancien pilote de Grand Prix moto. Moi, je l'ai très bien connu à l'époque où il pilotait à moto. Donc, Gilles, on va évacuer tout de suite le sujet. Après, on parlera que de belles choses. Il y avait eu des problèmes, notamment le vendredi, mais des problèmes d'accès sur le plateau du Castellet. Moi, je parle toujours du circuit Paul Ricard. Voilà. Je sais que vous avez pris toutes les mesures cette année pour que ça ne se reproduise pas.
Oui, des problèmes le vendredi, une vraie thrombose pendant 4-5 heures, et puis le dimanche au départ. Donc on a pris le taureau par les cornes, on a beaucoup travaillé avec des ingénieurs, avec des entreprises d'intelligence artificielle. On a vraiment mis en place un plan de mobilité massif, hein, près d'un million d'euros, et quatre mesures essentielles. D'abord, pour éviter qu'il y ait trop de véhicules qui montent sur le plateau, des parkings relais gratuits à la Ciotat, hein, près de 5000 véhicules avec des navettes gratuites en 45 minutes qui montent au circuit.
Super, un problème de ça parking, c'est une bonne nouvelle.
Donc les parkings sur place autour du circuit seront gratuits et on y seront moins nombreux et plus petits, mieux gérés avec des professionnels. Enfin, un sens de circulation, c'est-à-dire que vous arriverez de Marseille, de Toulon ou de Nice. Ben vous rejoindrez vos places de parking, vous irez voir un beau spectacle et vous repartirez par le même axe. Les axes et les flux ne se croiseront plus. Et pour terminer, pour l'information des spectateurs qui monteront nous voir, et en particulier quand ils viendront en voiture, on a un plan de mobilité et un partenariat stratégique avec Waze. C'est-à-dire que sur Waze, vous aurez toutes les informations en temps réel pour permettre là aussi de prendre les bonnes décisions.
Génial. Et si je peux me permettre de rajouter un point, juste que les gendarmes qui étaient innocents à l'époque aient les bonnes consignes de la part de la préfecture. Parce que je peux vous garantir que on s'est physiquement heurté à ce problème. Ils n'y étaient pour rien, ils n'avaient pas les bonnes consignes. Donc je sais que vous y ferez attention. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là.
On a un partenariat avec l'État qui est stratégique, bien évidemment. La préfecture du Var, tous les services de gendarmerie, mais également du département du Var, des sapeurs-pompiers et... Là encore, on a beaucoup travaillé ensemble pour que ce soit beaucoup plus efficace cette année.
Super. On en vient maintenant à l'aspect sportif, qui est ce qui nous intéresse le plus, évidemment, avec ce magnifique circuit, ce magnifique théâtre qui a été réanimé. Alors je crois qu'on garde la chicane dans la ligne droite du Mistral, hein, Gilles, puisqu'elle a démontré son efficacité, notamment en termes de dépassement et l'aspect spectaculaire. Les pilotes même l'ont apprécié.
Écoutez, c'était un pari. Hein. On s'est dit qu'il fallait, qu'on donne plus de spectacle aux spectateurs, justement. Et c'est vrai que cette chicane, qui est, comme vous le savez, bordée de tribunes avec une visibilité extraordinaire, a permis des dépassements, a permis des faits sportifs tout à fait extraordinaires. Certains pilotes qui pouvaient être un petit peu réticents, a priori, l'ont reconnu d'ailleurs après la course et ont dit que c'était vraiment un très bel élément de spectacle. Je vous rappelle que Motorsport, enfin un grand média britannique du sport mécanique, a placé parmi les 9 grands prix européens le circuit de Paul Ricard et le Grand Prix de France en numéro 2, tout comme au plan sportif, tout comme en fin d'expérience, l'expérience finalement du spectateur, et puis en numéro 1 pour l'expérience générale sur le week-end, c'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, non seulement il y a le Grand Prix, mais il y a aussi, pour ceux qui viennent de loin en particulier, beaucoup de choses à faire dans la région. Donc voilà, donc ça, ce sont des classements qui comptent dans le monde des sports mécaniques.
Et puis on peut dire que non seulement le Grand Prix de Monaco, qui va se dérouler donc dans moins de 2 heures maintenant, ne nuit pas, bien au contraire, puisqu'effectivement dans le sud de la France, même si Monaco évidemment c'est un état à part entière, on peut avoir deux événements de sport mécanique de cet acabit. On parlait tout à l'heure des noms mythiques des virages de Monaco, mais il y en a également, Gilles, qui sont mythiques, je pense au S de la Verrerie, où il faut un gros courage pour rester poli, ou le double droite du Bossé, effectivement, au Paul Ricard, c'est les endroits où les pilotes peuvent faire la différence. Et on se rappelle des grands duels, évidemment, entre Senna et Prost, notamment.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi un élément de vitesse, hein, qui est tout à fait, même s'il y a une chicane sur la ligne droite principale, on a des pilotes qui arrivent en pleine vitesse dans le virage de Signes, et c'est un des virages les plus rapides du plateau international. Le revêtement, c'est un peu anecdotique, mais pas tant que ça, a été complètement refait, en tout cas amélioré cette année, avec une nouvelle surface, et ça ira encore plus vite cette année, voilà. Donc beaucoup de spectacles sur la piste.
Eh ben écoute, ça va être génial. C'est Lewis Hamilton qui s'était imposé l'an dernier devant Verstappen et Raikkonen. Donc on va voir quel va être le triplé et le podium cette année. En tout cas, on se réjouit de venir vous rendre visite dans moins de 4 semaines, Gilles.
Et nous de vous recevoir, ainsi
merci
que tous les spectateurs qui auront pris leur décision et leur billet. Voilà.
Merci infiniment, Gilles Dufaigneux, d'avoir été en direct sur RMC.
Merci à vous.
Et très bonne journée, donc Gilles Dufaigneux, directeur général du Grand Prix de France, qui était avec nous. Bah tiens, ça tombe bien parce que ce week-end, vous gagnez vos places pour le Grand Prix de France, justement, de Formule 1 au Castellet. Votre passe pour les 3 jours, c'est à gagner maintenant sur RMC. Pour remporter vos billets, vous envoyez sans plus attendre F1 au 732-16. F1 au 732-16. On a parlé pendant 51 minutes de Formule 1. On nous nous avons parlé de l'autre événement du jour. On s'est quand même gardé 5 minutes. On n'a pas la chance d'y être avec des envoyés spéciaux. Quel dommage, parce que moi j'aurais adoré. Les 500 miles d'Indianapolis, Christophe.
103e édition effectivement de cette course mythique. Et c'est un Français, Jean-Luc, qui s'élancera en pole position tout à l'heure à 18h45. C'est Simon Pagenaud. Cette pole, c'est une première pour un Français sur le circuit américain depuis René Thomas en 1919. Et puis Simon, eh bien, il s'est déjà imposé le 11 mai dernier dans la capitale de l'Indiana. C'était lors du Grand Prix d'Indianapolis, tracé en partie sur le circuit ovale. C'était pas le même tracé, non. Mais il a toutes ses chances. Tout à l'heure, on est d'accord, Jean-Luc.
Ah, écoute, il a plus que jamais toutes ses chances. Effectivement, d'abord, je voudrais dire que Simon, c'est un type formidable, humainement, que j'avais eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises dans Motors, puisque nous fêtons la 850e. Il avait choisi, il avait eu le courage de s'exiler aux États-Unis parce qu'il avait considéré qu'en France et en Europe, il n'avait plus de possibilités pour développer sa carrière. Il a eu le courage d'aller s'implanter là-bas parce que Indianapolis, ça paraît extrêmement séduisant, mais faut savoir que l'hiver, c'est un endroit qui est rude, c'est le moins qu'on puisse
joli
dire.
Joli port de pêche, ouais.
Joli port de pêche, exactement. Mais il y a cette épreuve mythique qui s'appelle les 500 miles, dont ce sera la 103e édition, tu l'as dit. Et c'est vrai qu'avoir signé la pole, alors, il était très bien déjà en 2015. Il avait une voiture qui était extrêmement performante. Son meilleur résultat, c'est 6e pour le moment. On sait qu'à Indianapolis, la course est très longue, hein, ça n'a l'air de rien, mais 500 miles, ça fait 800 km, ça fait 200 tours de cet ovale de 2,5 km.
S'il ne pleut pas.
S'il ne pleut pas, oui. Malheureusement, s'il pleut, on arrête tout de suite parce que c'est trop dangereux. On ne peut pas rouler sur ovale. D'ailleurs, il y a quelques incertitudes météo. Je ne sais pas si tu as quelques nouvelles récentes.
Alors, écoute, effectivement, la météo risque de jouer un rôle déterminant. Hein. La pluie et des orages sont annoncés depuis plusieurs jours sans que personne ne puisse vraiment prédire avec précision l'horaire et l'endroit où les éléments vont frapper. Ce qui est sûr, et tu l'as dit, hein, le règlement est simple. La course est automatiquement arrêtée si la pluie fait son apparition. C'est trop dangereux sur l'ovale. Et un vainqueur est déclaré si 101 tours, la moitié de la distance plus un tour sont parcourus. Sinon, ça peut très bien se terminer demain, voire mardi.
Oui, c'est exactement ça. Et je crois qu'il faut remonter à 97 de mémoire où il y avait eu 102 tours seulement couverts. On va croiser les doigts parce que Simon, il l'a dit, la pole, c'est un élément très important, mais il va être dépassé. Peut-être
c'est moins
même
important qu'à Monaco, la pole.
Avant, voilà. Oh, ben là, parce que là, on dépasse. Là, il y a des centaines.
On est 3 par ligne déjà.
Exactement. Il y a des centaines de dépassements aux 500 miles d'Indianapolis. C'est vraiment une course que j'ai eu le plaisir de commenter à plusieurs reprises sur place, et je peux te dire, rien que d'en parler, comme toujours, on a des frissons parce qu'il y a 400 000 spectateurs autour. C'est vraiment le temple de la vitesse avec Monaco, avec Le Mans, les 24 heures du Mans. On en parlera aussi puisqu'on couvrira évidemment cette épreuve sur RMC, la radio des sports mécaniques et pas seulement de la Formule 1. Mais Indianapolis, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et on a la chance d'avoir, tu l'as dit, un Français, Simon Pagenaud, en pôle. Il a remporté. Voilà, il a remporté la victoire, tu le rappelais il y a un instant, sur le circuit routier, parce que il y a ce qu'on appelle un infield à l'intérieur de cet ovale, qui avait d'ailleurs été créé pour la Formule 1 à l'époque et pour les Grands Prix moto qui se sont également déroulés du championnat du monde.
Ah, alors, les yeux qui brillent quand il en parle.
Ah ben oui,
fou.
Parce que c'est vraiment des souvenirs extraordinaires. Et on tourne dans l'autre sens, paradoxalement, quand on utilise l'infield. Là, je peux tenir 2 heures, hein, je peux vous dire. En plus, il y a une belle image.
2 minutes pourtant.
Et je vais m'arrêter là. Simon a pu monter dans la voiture du dernier vainqueur français, René Thomas, qui est exposé à un musée extraordinaire dans l'enceinte de cet ovale. Il est monté dans la monoplace. Est-ce que c'est un signe? Je peux vous dire qu'à 7 minutes, je l'ai eu il y a quelques heures, à 7 minutes, on doit être très, très tendu.
Il y en a un qui délivre quelques encouragements, justement. C'est Pierre Gasly, notre pilote de Formule 1. On l'écoute.
Donne tout, Simon, on est tous derrière toi, on regardera la course même jusque tard, donc on espère que tu vas nous accrocher, avoir la Marseillaise à la fin de la course, et en tout cas je te souhaite tout le meilleur.
Ah, c'est sympa. C'est très sympa. Le pilote Poitevin, il est de la région de, et puis on va parler de Sébastien Bourdais.
Ouais, 7e, j'en parlais. C'est aussi une grosse performance pour lui. Et il a clairement toutes ses chances ce soir, lui aussi.
Il a toutes ses chances parce que effectivement, partir 7e, ça veut dire que la machine est bien réglée. C'est une écurie plus modeste, hein. Il roule pour le Dale Coyne Racing alors que, Simon Pagenaud roule pour le team Penske, qui est un des Roger Penske, qui est le capitaine, qui a été déjà multiple fois vainqueur à Indianapolis et Poleman. Donc Sébastien, faut rappeler qu'il a eu un accident terrible il y a 2 ans en qualification. Il était en train de signer la pole, lui aussi. Il a tapé le mur à 330 km/h. Il avait une fracture du bassin, enfin, très grièvement blessé. Et un peu à la manière d'un Lauda, j'ose le dire, il était revenu en compétition moins de 2 mois après cette fracture effroyable. Et il s'est remis à tourner. Il faut savoir qu'Indianapolis, hein, on prend près de 400 km/h au bout des 2 lignes droites. Et on prend les courbes entre 300 et 320 km/h avec des phénomènes de turbulence énormes. Donc c'est vraiment un endroit totalement mythique. magnifique et on est ravis de voir deux Français aux avant-postes de cette épreuve.
Deux Français, pardon.
Non, je t'en prie.
Pas de Fernando Alonso, par contre.
Pas de Fernando Alonso, bah, c'était la grosse déception, malheureusement. Je crois que là, lui n'y est pour rien. Il a donné tout ce qu'il a pu. D'ailleurs, il est sorti, heureusement, sans se blesser, mais assez violemment, à 300 km/h en essai. Je crois que c'est, bah, là, il faut incriminer une nouvelle fois l'équipe McLaren. On s'est totalement loupé. Là où, il y a deux ans, on s'était appuyé sur la structure de Andretti, structure très solide, avec trois autres pilotes. D'ailleurs, il n'y a pas de honte à le dire, la machine avait été réglée parce que c'est très important. À Indianapolis, on ne règle aucune des roues pareilles et toute l'aérodynamique de la voiture est décalée. Donc, il faut énormément de métiers pour parvenir à avoir une voiture efficace. Mmh. Et là, Fernando, on ne l'a pas mis. McLaren a été incapable de lui mettre la voiture à disposition. Juste, je sais qu'il faut en finir, deux bouquins. Un sur les 24 heures du Mans aux éditions Glénat. C'est une bande dessinée qui retrace l'historique. Et puis, j'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. C'est l'âge d'or des pilotes français de Grand Prix moto cette fois. C'est la FFM qui a édité ça. C'est génial. Pour ceux qui ont connu cette époque ou qui ont envie de la vivre, c'est Zaffino qui l'a écrit. N'hésitez pas. Voilà.
Eh bien, c'est dit. Merci. Merci Christophe Pléné d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc. On te retrouve dès 15h, évidemment, oui, pour ce Grand Prix de Monaco. Ça va être 17e du Mans. Sixième manche de la saison 2019 du championnat du monde de Formule 1. Et Motors, évidemment, reviendra comme tous les dimanches prochains à 13h. Très bonne journée à tous.